Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 24 octobre et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis Marion et je suis ravie de vous retrouver pour discuter de l'actualité tech ce matin avec le mug. Comment ça va dans la chatroom? On va commencer par accueillir... Alors, désolée pour le cadrage. Attendez, je... Non, ça va pas être possible. C'est pas grave, j'aurai la tête coupée, c'est pas très très grave. Bonjour, bonjour à tous. Salut Manon, salut Scooby Media, salut Laurie, salut Alan Poisson, salut Pax Magellani, salut Yves, salut Léo du 69. Pardon, Léa, pas Léo, Léa, Léa Ude, Léode. Je sais pas comment dire. Léo de Léa 69, j'en sais rien. Dis-moi. Salut Grob, salut Anaïs, salut Deds, salut Varadero, salut Pauline, salut Olek, salut Technis Savoir, salut Azerox, salut Poppy, salut Aliane, salut MMG7F, salut Lex Baba, salut Riboun, salut Charlie, salut Razorback, salut The Garlic Snail, salut Baron Marotan. Ça fait trop plaisir de vous voir. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous êtes levés du bon pied, que vous êtes bien installés ce matin pour vous réveiller tranquillement au son de l'actualité tech. Bonjour les punk achats, salut au bout du rouleau. Au bout du rouleau, bah dis donc, j'espère que ça va mieux quand même. Salut Caradoc, salut Sinat, salut Olivier SG. Voilà, alors de quoi va-t-on parler ce matin? Des gros sujets quand même ce matin. Alors vous avez vu carrément dans le titre de l'émission ce matin, mais avant de commencer, on va démarrer dans l'ordre de ce qu'on va parler ce matin. On va parler un petit peu de Microsoft et Activision, on va revenir un petit peu sur la bataille du rachat et grâce à quoi finalement Microsoft a pu remporter la bataille par rapport aux différents pays ou groupements de pays qui commençaient à scruter évidemment le deal entre l'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni et compagnie. Et c'est a priori dû à une grosse, grosse machine légale et juridique menée par Brad Smith, directeur juridique depuis 2002 et président et vice-président normalement. Ah, attendez, hop, j'ai un doute. Non, président depuis 2015. Et donc, on reviendra un petit peu justement sur comment ils ont réussi à remporter et avoir justement le rachat d'Activision qui se fait finalement. Et puis, on parlera également de Dashlane. Dashlane, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des gestionnaires de mots de passe disponibles sur le marché. Voilà, donc je crois que c'est le premier gestionnaire, pour être honnête. Je pense que c'est le premier gestionnaire de mots de passe que moi, j'ai connu. Aujourd'hui, j'utilise 1Password, mais voilà, Dashlane fait partie de ces gestionnaires de mots de passe. Gestionnaire de mots de passe assez critique pour sécuriser votre présence en ligne, vos comptes, etc. Donc, c'est super. Super important pour votre hygiène numérique tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe du côté de Dashlane? Eh bien, ils ont un peu revu leur copie concernant la formule gratuite. Donc, on reviendra un petit peu sur les changements de la formule gratuite et on verra si certains d'entre vous l'utilisent et si ça vous déplaît ou pas. Et puis après, on enchaînera sur le sujet du jour. Le sujet du jour qui est Elon Musk qui s'attaque à une nouvelle cible. Alors nouvelle, je ne sais pas si elle est vraiment nouvelle, hein, pour être honnête. Ça me semble pas tout à fait nouveau que Elon Musk pointe du doigt Wikipédia. Mais voilà, sur ce week-end, ça l'a piqué, il s'est exprimé sur Twitter, il a commencé à troller sur Wikipédia, à surfer sur des théories du complot pour encourager ses trolls à prendre d'attaque Wikipédia. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé. Voilà, une nouvelle frasque de Mr. Musk. Et puis on reviendra aussi, on parlera de YouTube un petit peu quand même ce matin, avec notamment les nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour tous. Elles étaient auparavant testées, notamment pour ceux qui avaient un abonnement premium. Bah ben, désormais, tout le monde y a accès, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les utilisateurs Android seront les premiers servis d'ailleurs pour avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités. Et puis, on continuera avec Twitch. Mine de rien, on est quand même sur Twitch ce matin. Et malheureusement, quelque chose de pas très, très rassurant. On a notamment un groupe de chercheurs qui se sont rendu compte qu'il était très facile de trouver et de traquer un adolescent ou en tout cas une personne mineure sur Twitch en 12 secondes top chrono. Donc ça, c'est un petit peu problématique, surtout qu'on s'est aperçu aussi que les personnes qui font des lives et qui sont mineures partagent malheureusement très facilement des informations qui pourraient aider à les localiser très rapidement aussi. Donc voilà, donc ça, c'est une inquiétude assez, assez importante et Twitch n'est pas resté muet sur le sujet, heureusement. Et puis on terminera avec quelque chose peut-être quand même de plus léger et on reviendra sur Apple TV+, et notamment... le fait que Apple peut être un petit peu le cul entre deux chaises, on va le dire comme ça, entre d'un côté proposer du hardware assez neutre, etc., et faire son business grâce à des partenaires comme la Chine, ou avoir un gros marché, notamment en Chine, et de l'autre côté, essayer de produire du contenu original, et notamment du contenu original qui pourrait venir critiquer soit des directions qu'Apple prendrait, soit des partenaires ou des marchés importants d'Apple. Donc voilà, notamment Apple qui annule le Tonight Show, le Late Night Show, pardon, de Jon Stewart, The Problem with Jon Stewart. On reviendra dessus sur pourquoi, a priori, ça a été annulé pour sa troisième saison. Voilà pour le programme ce matin. Comme vous le voyez, c'est quand même un programme assez dense avec des sujets variés, comme on les aime, comme on aime ces mugs. J'en profite pour resaluer les personnes que j'ai pas vues ce matin. Salut à tous. J'espère que vous êtes bien arrivés. Salut chez Bayou, salut Eric Deslandes, salut Diri Le Kiri, salut Duc Murloc, salut un de vous. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier article ce matin. Et donc, on va revenir notamment sur le rachat de Microsoft, le rachat d'Activision par Microsoft. Et oui, après l'Europe et les États-Unis, c'est le tour du Royaume-Uni le 13 octobre dernier de donner son feu vert pour la fameuse acquisition du poids lourd Microsoft. Qui va racheter, enfin le poids lourd de la tech Microsoft, qui va racheter le poids lourd du gaming Blizzard Activision. Voilà, pour 69 millions de dollars, c'est quand même pas rien. C'est une victoire qui se déroule sous l'égide de son président Brad Smith. Et c'est un article de The Financial Times qui a été traduit par Courrier International, et que je vous conseille de lire parce qu'il est vraiment très intéressant. Et il met en effet en lumière cette bataille de 21 mois quand même, hein, menée par Microsoft pour racheter Activision. Et c'est une des sagas qui est connue quand même le plus de rebondissements dans l'univers des fusions-acquisitions. On sait déjà que le contexte économique est quand même assez compliqué, et s'ajoute ici une pression supplémentaire sur les GAFAM. Il ne faut pas non plus ignorer ce contexte où les États ouvrent de plus en plus l'œil sur les rachats des géants de la tech. On peut aussi voir que... les États se sont un peu mordus les doigts, notamment sur le rachat d'Instagram par Facebook, qui à l'époque était passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, on pourrait... certainement, ça ne serait pas le cas si ça se produisait aujourd'hui. Et donc, du coup, de manière très logique, bah, finalement, les États se sont un peu mis... pas sur le devant de la scène, mais ils ont en tout cas fait très attention à ce rachat. Et en tout cas, cette acquisition montre un petit peu aussi la toute puissance de la machine juridique, politique et d'influence que Microsoft a mis en place au fil des années, hein, et qui lui coûte aujourd'hui plus de 1 million de dollars par an. Et en fait, l'une des entreprises américaines pratiquant avec le plus d'efficacité une nouvelle forme de diplomatie d'entreprise. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'en parle pas tant que ça. d'un autre boulot finalement de ces entreprises, et une autre part très importante de ces entreprises, c'est justement travailler sur son image et travailler sur ses relations avec les différents acteurs qui pourraient être plus ouverts ou plus fermés à leur pratique, à leur démarche. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que toute entreprise ou toute entreprise qui veut croître et qui va essayer de changer la manière dont les choses sont faites, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur, va devoir travailler avec les États ou ceux en tout cas qui travaillent sur les lois pour essayer de faire évoluer finalement les lois, la législation pour que la société évolue avec l'air du temps, les nouveaux usages et les nouveaux risques qui émergent aussi. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est là où, notamment, les sociétés aussi ont un intérêt à accompagner ceux qui définissent ces lois et ce cadre juridique pour leur faire comprendre un petit peu les opportunités et les risques possibles dans ce cadre-là. Mais voilà, donc du coup, Microsoft a mis en place ça et donc a une machine assez huilée, rodée. Et donc, ils ont aussi passé deux décennies à redorer la réputation d'une entreprise qui, autrefois, il faut quand même se le dire, était vue comme le principal tyran de la tech. Hein. Rappelez-vous, il y a quelques dizaines d'années, Microsoft était quand même pas très, très bien vue. Et c'est justement sous la houlette de Brad Smith, directeur juridique, comme je disais, à partir de 2002 et président de Microsoft depuis 2015, que Microsoft s'est forcé de présenter justement aux autorités un visage plus conciliant. Du coup, l'entreprise a essayé de se rendre utile auprès des pouvoirs publics, hein, qui a besoin d'aide dans tous les domaines, de la stratégie technologique aux interventions d'urgence lors de cyberattaques. Et donc, du coup, Microsoft, très logiquement, a une opportunité pour se positionner comme partenaire ici de ces pouvoirs publics afin justement de restaurer la confiance et d'améliorer tout simplement ses chances de l'emporter lors d'auditions où ses intérêts commerciaux sont mis en cause. Voilà, donc ça fait partie du rôle d'une boîte d'avoir des bonnes relations avec les pouvoirs publics ou voilà. Et donc c'est vrai que ça a marqué une rupture avec l'arrivée de Brad Smith finalement, ça a marqué une rupture avec la tradition précédente de Microsoft qui était jusqu'ici de choisir l'affrontement. Et Brad Smith, à l'opposé finalement de cette stratégie, s'est fait l'avocat de la conciliation ici et a défendu justement la nécessité d'être plus transparent avec ses autorités. Il a aussi fait évoluer les pratiques de Microsoft afin de couper court aux plaintes pour abus de position dominante avant qu'elles ne prennent de l'ampleur justement. Et donc en 2022, à la suite de plaintes concernant les pratiques du groupe en matière de propriété intellectuelle dans le cloud, qui risquaient de le placer justement dans le viseur des autorités antitrust, le président de Microsoft, Brad Smith again, a présenté des excuses publiques et a annoncé des changements qui, selon lui, régleraient le problème. Donc on est vraiment sur quelque chose de « on vous entend, on vous écoute » et du coup on va revoir notre copie et ajuster pour que ça se passe au mieux et qu'on puisse mitiger les risques et vos craintes, entre guillemets. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du dialogue et de la conciliation. Ce positionnement a fonctionné en termes d'image de marque et sur certains sujets pour Microsoft, pas tous. Hein. Il y a quand même certaines méthodes qui ont été pointés du doigt. Et justement, le 11 octobre dernier, l'entreprise a quand même annoncé avoir fait l'objet d'une régularisation fiscale de près de 29 milliards de dollars aux États-Unis pour la période de 2004 à 2013, car l'administration américaine estime qu'en déclarant les bénéfices dans des pays à faible taux d'imposition, Microsoft a réduit artificiellement ses impôts aux États-Unis. Encore une fois, ce travail d'image, de conciliation, de dialogue avec les pouvoirs publics et les autorités n'exempte pas Microsoft d'être sanctionné quand il y a des pratiques qui ne sont pas acceptées ou qui sont jugées pas pertinentes ici, notamment pour l'optimisation fiscale. Donc, entretenir des bonnes relations ne veut pas dire être exempte de faute ou échapper au jugement quand il y a besoin d'avoir un jugement. Mais En tout cas, Brad Smith a fait quand même un gros changement et a amorcé un grand virage, en tout cas, dans la manière de Microsoft d'aborder ces sujets. Alors, Brad Smith, c'est pas parfait, ça l'empêche pas quand même de temps en temps d'avoir des coups de sang. En effet, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Eh ben, en avril, quand les régulateurs britanniques ont déclaré qu'ils bloqueraient le rachat d'Activision, et ils ont eu une position, une déclaration assez ferme. Bah, Brad Smith, de son côté, a dit que cette décision était mauvaise pour le Royaume-Uni. Et ça a été signalé notamment à la BBC. Je ne trouve pas forcément que ce soit un coup de sang et travailler sur le terrain de la conciliation n'empêche pas d'être ferme sur ses positions et de partager un avis. Et c'est vrai que il y a aussi l'enjeu d'opportunité business que représente aussi ce deal au Royaume-Uni et ailleurs, quoi. Donc voilà. Je regarde un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Naotech qui dit tous, désolé, mon chat était bloqué, mon chat était bloqué avec l'application mobile. Ok. Très bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand même, sur ce terrain de travail avec les pouvoirs publics et les autorités, Microsoft va plus loin que les autres géants de la tech, comme en témoigne justement la création d'un bureau de représentation permanente auprès de l'ONU. Non, c'est pas une blague. Ce bureau a été créé en 2020, carrément. Il est situé sur tout un étage d'un bâtiment situé non loin du siège de l'Organisation internationale à New York. Et justement, il y a même le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a été le premier chef d'État à s'y rendre afin d'encourager justement Microsoft à investir dans son pays. Voilà. Et Microsoft, de son côté, espère mettre justement à profit ce contact pour promouvoir justement ces outils de cybersécurité. Donc vous voyez un petit peu qu'il y a un intérêt dans les deux côtés, du côté des pouvoirs publics et des États, et également du côté de Microsoft en termes de business et même de perception par les autorités publiques. Et donc du coup, ce lobbying, parce que c'est du lobbying, hein, c'est pas un gros mot de dire ça, ce lobbying auprès de l'ONU fait partie d'une opération menée sous la direction donc, de Brad Smith, qui coûte aujourd'hui plus de 1 milliard de dollars par an. Les services de Microsoft qui lui sont rattachés sont notamment chargés des questions juridiques et commerciales et des relations avec les États. Et ça représente quand même pas moins de 2000 spécialistes, comme les appelle Microsoft, quoi. Donc 2000 personnes dédiées uniquement aux questions justement juridiques et commerciales avec les États et ses relations avec les pouvoirs publics. Donc c'est, je trouve, hyper intéressant que ça soit un enjeu tel que Microsoft soit prêt à investir 1 milliard de dollars par an. Et donc du coup, ce positionnement peut évidemment en agacer certains, hein, parce que du coup Microsoft se présente un petit peu comme le parangon de la vertu sur des sujets comme la cybersécurité, et donc ce qui peut un petit peu en effet agacer. Mais Microsoft se sert de son travail avec les gouvernements pour tout simplement faire oublier aussi certaines failles de ses propres logiciels. En tout cas, voilà, toutes les boîtes travaillent finalement avec ces logiciels, ces technologies, etc. Travailler à montrer patte blanche et à accompagner les États ne veut pas dire qu'on est juste parfait de ce niveau-là, mais en tout cas montre qu'on veut œuvrer dans la bonne direction. Donc voilà, je trouve que l'article, pour le coup, était un petit peu sévère sur cet aspect-là. Et ce qui est intéressant, c'est notamment des anciens employés de Microsoft qui mentionnent l'une des leçons que nous avons tirées des affaires liées à la concurrence, c'est mieux vaut nouer des relations, les entretenir et faire en sorte que les gens comprennent vos activités en amont avant de faire face à des problèmes épineux. En effet, il y a vraiment un intérêt des deux côtés, à la fois pour les autorités publiques d'être au courant finalement des démarches et des projets de Microsoft et dans quel sens ils vont pour faire évoluer la tech au niveau de la société, parce que la technologie est au service de la société et donc du coup comment ça peut s'articuler, et ce sont des experts mine de rien, hein, donc ils sont très bien placés pour anticiper et définir comment la tech va révolutionner la société, et donc le faire de manière transparente, va permettre aux pouvoirs publics et aux autorités de se préparer, de mûrir leurs réflexions et potentiellement de soulever plus tôt que tard des craintes, des risques que Microsoft va pouvoir ensuite travailler dessus pour les mitiger, quoi. Donc je trouve que c'est en effet le devoir un petit peu de toutes ces sociétés tech ici, quoi. Une autre citation, c'est « Les régulateurs ne vous donneront pas de blanc-seing, mais ils seront à l'écoute. On peut espérer être une voix crédible auprès d'eux et c'est ce qui compte ». C'est ce que mentionne en tout cas un autre ancien cadre de Microsoft. Donc c'est là toute la stratégie. C'est en effet, c'est pas d'être exempt de jugement, de faute, etc. Mais en tout cas, c'est de montrer qu'on veut œuvrer pour quelque chose qui va aller dans le bon sens pour tous. Et plus on est transparent dans ce sens-là, plus on va permettre de travailler en bonne entente et en collaboration avec cet aspect de conciliation, quoi. Donc je regarde un petit peu vos commentaires. Est-ce que vous, ça vous étonne dans la chatroom justement que Microsoft investisse autant de personnes et d'argent dans cet aspect de lobbying juridique et commercial auprès des États et des pouvoirs publics? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous étiez au courant ou vous aviez ou qui fait sens tout simplement? Regarde un peu. Ça ne doit pas être les seuls à faire ça, ouais. Grolp, je suis d'accord avec toi. En effet, je ne pense pas que ce soit les seuls à faire ça. Mais en tout cas, ce que mentionne l'article, c'est que c'est des géants de la tech, a priori, celui qui investit le plus sur cet aspect. Je pense qu'ils investissent tous sur le sujet, plus ou moins. Mais en fait, ça fait partie intégrante de leur fonctionnement. À un certain niveau, ils se doivent de travailler avec les pouvoirs publics. On voyait notamment, à un moment donné, je crois que c'était Elon Musk qui faisait partie du conseil sur la technologie pour accompagner sur les questions technologiques le président des États-Unis. Donc, il y a vraiment un enjeu stratégique ici à se positionner comme un partenaire de confiance que comme un adversaire finalement, ce qui fait un peu moins bien aujourd'hui. Mais voilà. Et donc en effet, je pense qu'à plus ou moins grande échelle, tous les GAFAM en tout cas, ou tous les géants de la tech et même certains plus petits, vont travailler sur cet aspect-là, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, a priori, est celui qui investit le plus, ouais. Je savais que le lobbying était présent, mais je ne m'attendais pas à des sommes aussi importantes. Ouais, c'est ce que je trouve intéressant avec cet article, c'est que ça nous donne un petit peu un aperçu de comment c'est mis en place et de ce que ça représente finalement à l'échelle de Microsoft. C'est une façon de créer de l'emploi, oui, tout à fait. On a toujours caricaturé Oracle pour avoir des armées entières de juristes vu tous les procès qu'ils font à leurs concurrents, ouais. Je me demande le pourcentage dans l'achat juste pour l'aspect juridique et politique. Oui, je pense que c'est le gros, hein. Je pense que c'est le gros. Lorsque tu fais un rachat d'une boîte, le gros du travail se passe au niveau juridique et politique dans le cas ici où il y a un risque de blocage. Mais oui, sur comment intégrer et le faire de manière la plus optimale, c'est quand même pas mal au niveau juridique, quoi. Voliti nous dit le montant pour Microsoft n'est pas si important, par contre le nombre de personnes, lui, oui. Voilà. Les rachats de Call of Duty qui est ultra dur sur les conflits mondiaux, ça ne va pas leur porter préjudice. Moi, je pense qu'ils y ont pensé quand ils ont fait le rachat. Mais je pense pas forcément. Je pense pas parce qu'ils prennent un petit peu de comment dire? Peut-être, mais j'ai pas forcément de raisonnement ou d'avis spécifique sur le sujet, pour le coup. Donc voilà, En tout cas, pour Microsoft, l'article de The Financial Times qui est disponible du coup dans Quora International, je vous le recommande. Il est disponible sur le Flipboard de Naotech. Il est vraiment très intéressant et ça montre un petit peu un autre aspect des sociétés tech qui font partie vraiment de leur travail au quotidien, ces négociations et ce lobbying avec les pouvoirs publics et les autorités. On fait une petite pause avec une petite brève qui concerne Dashlane. Dashlane, comme je disais dans le sommaire de l'émission, c'est un gestionnaire de mots de passe parmi tant d'autres, parmi OnePassword, parmi LastPass, etc. Pour en citer que quelques-uns, j'avoue que je suis pas au fait des... Excusez-moi, je vais fermer la porte... Je ne suis pas au fait de tous les acteurs de gestionnaires de mots de passe. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et donc, le but d'un gestionnaire de mots de passe, c'est de pouvoir garantir votre hygiène numérique avec le stockage des mots de passe, donc dans ce fameux gestionnaire. Du coup, c'est vraiment, ça fait partie finalement des premières bonnes pratiques à mettre en place pour votre hygiène numérique, avec notamment l'activation, l'activation de l'authentification à deux facteurs, puisque ça va ajouter une couche supplémentaire de sécurité. Du coup, ce qui est intéressant, c'est comment on fait pour tester finalement les différents gestionnaires de mots de passe pour faire son propre choix. Et donc là, c'est là la nouveauté, c'est que Dashlane a mis à jour un petit peu sa formule gratuite de gestionnaire de mots de passe. Donc le 7 novembre, les nouveaux usagers de Dashlane Free, donc ceux qui ne payent pas, par exemple, ne pourront conserver que 25 mots de passe simultanément dans leur gestionnaire, alors qu'au préalable, c'était jusqu'à 50 mots de passe. Donc voilà, ils ont réduit finalement les possibilités qu'offrait la version gratuite pour essayer d'accélérer la transition vers la formule payante de manière tout à fait logique. En effet, on a plusieurs études qui montrent que les individus jonglent entre quelques dizaines de mots de passe. Qu'ils utilisent les mêmes mots de passe sur différentes plateformes et généralement ils jonglent entre une dizaine de mots de passe avec des variantes finalement d'un peu d'un même modèle. Et donc du coup s'ils respectent la consigne de un mot de passe unique par service, alors ce nombre grimpe évidemment très très vite à quelques centaines. Et donc du coup, si vous vous mettez à utiliser un gestionnaire de mots de passe qui potentiellement va vous justement vous aider à générer des mots de passe sécurisés et uniques, et ben du coup, ça va la limite des 25 mots de passe va être atteinte très 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 vite. Donc là, on est vraiment sur un enjeu où Dashlane veut faire passer à la formule payante plus rapidement et en même temps, évidemment, veut quand même donner un aperçu des fonctionnalités. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Un autre élément qui est limité à la formule payante, mais ça a toujours été le cas, c'est la synchronisation entre les terminaux. Alors c'est vrai que moi, personnellement, me dire que j'ai un gestionnaire de mots de passe mais que j'ai pas la synchronisation entre les terminaux, ça me ferait passer directement sur la formule payante. D'ailleurs, je suis sur la formule payante pour OnePassword, moi personnellement. On l'utilise aussi pour le travail. J'utilisais personnellement, donc ça tombe bien, puisque du coup, j'utilise le même logiciel pour tout. Mais du coup, je le paye aussi en formule personnelle, quoi. Et donc, du coup, comment ça va se passer au niveau de la transition pour ceux qui utilisent la formule gratuite de Dashlane? Je ne sais pas s'il y en a dans la chatroom, d'ailleurs, qui utilisent la version gratuite de Dashlane. N'hésitez pas à vous signaler dans la chatroom. Mais en tout cas, pour eux, la transition va se faire entre guillemets doucement, puisqu'en fait la limite, ils vont pas vous supprimer des mots de passe si vous en aviez 50 au préalable ou 33, etc., mais au-dessus de 25, fort heureusement, ils vont juste adapter la limite du nombre de mots de passe au nombre que vous avez déjà. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez 33 mots de passe, c'est à partir du 34e que vous essaierez de rentrer qu'ils vont vous demander de passer sur la formule payante. Donc vous ne perdez rien, pas de panique ici. Mais par contre, préparez-vous parce que du coup, vous n'aurez plus trop de marge de manœuvre jusqu'à atteindre les 50 mots de passe puisque finalement, ce sera limité à ce que vous avez déjà aujourd'hui. Donc voilà. Alors, justement, Oleg, je pense que tu dis quelque chose d'hyper intéressant Ah, parce que pour moi, je me demande un petit peu si c'est vraiment la bonne stratégie de limiter le nombre de mots de passe. En effet, parce que tu dis quelque chose de tout à fait juste, c'est le gestionnaire de mots de passe qui incite les usagers, les utilisateurs, à revenir au mot de passe commun à 10 accès de peur de dépasser la limite gratuite. En effet, je trouve qu'en limitant le nombre de mots de passe possibles sur le logiciel, finalement, ils incitent à un mauvais comportement en termes de sécurité qui est du coup d'utiliser une dizaine de mots de passe variantes et pas plus pour pouvoir ensuite soit se les rappeler ou toujours utiliser les mêmes pour éviter du coup un exemple tout bête. Eh ben, vous pouvez vous dire, vous pouvez rentrer. Alors, je ne sais pas comment fonctionne Dashlane, donc je me base sur ce que je connais de 1Password, mais vous pouvez utiliser une nouvelle identification et dire que cette identification, c'est à la fois pour YouTube, Twitch, Netflix, en gros, toutes les plateformes un peu de vidéo, vous utilisez le même mot de passe, vous mettez toutes les URL, comme ça, à chaque fois que vous vous présentez sur une de ces URL de service, vous avez l'autocomplétion qui joue quand même, et comme ça, vous avez plusieurs mots de passe, entre guillemets, qui, en fait, sont identiques sur plusieurs services, mais qui réduit fortement la sécurité. Donc là, je trouve qu'avec la stratégie de cette formule gratuite, Dashlane encourage exactement le mauvais comportement. Moi, ce que j'aurais fait finalement, mais peut-être que c'est plus risqué, c'est de pas forcément donner de limite de nombre de mots de passe, mais par contre donner une limite dans le temps. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser ou l'essayer pendant 3 mois, 3 mois ou 6 mois à voir, mais peut-être 3 mois parce que là, on sent qu'il y a un enjeu pour Dashlane de rentrer plus d'argent rapidement, ou potentiellement même 1 mois, pour commencer à prendre l'habitude, même pouvoir l'utiliser sur tous les terminaux, ou peut-être limiter le nombre de terminaux dans un premier temps, pour voir combien c'est agréable finalement d'utiliser ça, que ça rentre dans les habitudes, et après on n'a plus envie de s'en séparer. Surtout parce qu'en fait, on a investi beaucoup, c'est-à-dire plus vous ajoutez de mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe, moins vous avez envie de le quitter. Parce qu'en fait, vous avez fait du travail ici. C'est comme quand vous créez vos playlists sur une plateforme de musique. Plus vous créez de playlists, moins vous avez envie de partir. Et évidemment, on peut toujours parler de ces services qui vont vous aider à transférer vos playlists sur une autre plateforme de musique. On va pas se le cacher, c'est pénible à faire. Franchement, c'est du boulot. Moi, je l'ai fait pour switcher de Spotify à Apple Music. D'abord, j'ai pas transféré toutes mes playlists et c'était pénible à faire. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a aussi ça. On dirait qu'ils se tirent un peu une balle dans le pied, finalement, Dashlane, parce qu'en fait, ils encouragent les utilisateurs à moins investir et à moins se reposer sur eux pour gérer leur mot de passe. Voilà. Donc, vraiment, je me questionne un petit peu sur si c'est vraiment la bonne stratégie de formule gratuite pour essayer le service. Vraiment, je ne suis pas du tout convaincue ici. Je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Alors, je regarde un peu. Ça va très bien, Camillette. Amen nous dit Bitwarden, stockage de mots de passe illimité. Dashlane a toujours été une purge à utiliser pour moi. Rien n'est simple. Trop d'automatismes compliqués à contourner ou à maîtriser. Ah ben, je ne savais pas. Ben, écoute, je ne l'ai jamais testé, pour être honnête, Dashlane. J'en avais entendu du bien, mais écoute, comme quoi, il y a différents avis, quoi. One Password est bien, mais buggé. Moi, ça se passe plutôt bien. J'avais eu des problèmes à l'époque. C'était quoi? Quand ils avaient changé leur formule et qu'il fallait obligatoirement passer sur un abonnement. J'avoue qu'il y a un moment donné où ils ont forcé le passage sur l'abonnement et ça s'est un peu fait dans la douleur parce que j'avais un peu contourné, j'avais mon vault, mon coffre fort de mots de passe que je stockais sur un service à moi, etc. et que j'utilisais pas leur service à eux. Et ça, ils aimaient plus. Voilà. Et ça, cette transition, j'ai trouvé que c'était pas fait en douceur. Et ça a créé des bugs aussi. Mais après, le service client, pour moi, a été réactif. Et au final, j'ai accepté de payer parce que j'ai accepté le fait que c'était un service dont je ne pouvais plus me passer. Et c'était logique de rémunérer les équipes pour me donner ce service, quoi. Je regarde un peu. Sinon, on peut synchro son fichier qui passe sur son Drive, Google Drive ou iDrive, c'est gratuit, c'est illimité. Ben, c'est un peu ce que je faisais jusqu'à ce que ça crée des bugs du côté de OnePassword, ouais. Il y a Apple Pass également. Ah non, j'avais mis mon père sur Dashlane, c'est Bibi qui va devoir lui faire faire la transition à autre chose. Bon courage, No Mince. Pareil, je suis passée de Spotify à Apple Music. Quelle horreur, la moitié de mes musiques ne sont pas dans la bibliothèque. Ouais, c'est un peu une galère, quoi. Je suis passée de LastPass à Bitwarden il y a quelques années en seulement 10 minutes. C'est vraiment hyper rapide. Les outils sont présents déjà. Oui, bah, c'est vrai que les gestionnaires de mots de passe ont tout intérêt aussi à vous faciliter la transition. C'est pas tout le temps possible, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir permettre ça, quoi. Autant rester sur le trousseau iCloud ou Google. J'aime pas être dépendant. Ça, c'est un avis très personnel, Got34. J'aime pas être dépendant soit d'Apple, soit de Google pour mes mots de passe. Parce que du coup, je me dis que si je change de portable, ça fonctionnera pas très très bien, soit chez l'un, soit chez l'autre. Et je veux pouvoir quand même garder une certaine flexibilité de me dire aujourd'hui, je suis sur Apple, je suis sur iOS, mais si j'ai envie de changer pour Android, je peux le faire parce que mon gestionnaire de mots de passe n'est pas bloqué dans l'un ou l'autre système. Donc c'est pour ça que je prends quelque chose qui est déconnecté d'Apple ou Google ici. Mais c'est vraiment, c'est un positionnement que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas forcément revu récemment pour voir s'il y avait s'ils avaient été un peu plus ouverts. Il y a pas mal hein, sur Dashlane. Hein. Bah, voilà, Fabrice nous dit, j'utilise Dashlane depuis 2 ans, c'est super simple. Voilà. Pareil pour Artiflow qui nous dit, j'utilise Dashlane depuis son lancement, je suis vraiment content. Donc voilà, donc du coup, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous êtes prévenus ici pour le changement sur la version gratuite. Autre changement que je n'ai pas mentionné, c'est que pour la version gratuite, vous n'aurez plus accès à l'assistance par mail et par discussion instantanée. Vous aurez uniquement le support classique, pardon, sans interaction avec l'entreprise, qui restera accessible. Bon, là aussi, c'est assez logique. Le support, c'est un des coûts principaux d'une boîte, hein, avoir un support humain pour aider les utilisateurs. Donc, c'est assez logique pour ceux qui ne payent pas qu'ils aient un support classique sans interaction avec la boîte. Je ne suis pas forcément étonnée. Mais c'est vrai que là aussi, ça peut effrayer un petit peu du coup, parce qu'on se dit que si on a un problème, on ne va pas être bien aidé. Et ça peut laisser penser du coup que la qualité du support n'est pas bonne, alors qu'en fait, vous auriez accès à un meilleur support en payant. C'est toujours compliqué de se dire. Je vais payer pour quelque chose que je n'ai pas testé et dont je ne suis pas sûre de la qualité. Et c'est vrai que c'est pour ça que je ne suis pas hyper convaincue de la stratégie de Dashlane. Bon, ils vont tester, à eux de voir si ça fonctionne ou pas sur le long terme. On enchaîne avec le gros sujet du jour qui est Elon Musk et une énième frasque ou une énième cible qu'il s'est mis en tête, comme si une mouche l'avait piqué. Et cette fois-ci, il s'agit de Wikipédia. Le milliardaire qui se plaint, voilà, particulièrement de ce qui est écrit sur sa propre page. Vous pouvez aller voir, hein, notamment la page de Wikipédia de Elon Musk. Qu'est-ce qui s'y passe sur cette page? Eh ben, on y liste, pardon, de nombreux scandales dont Elon Musk, a fait parler de lui, hein. Et du coup, a priori, ça lui plaît pas, évidemment, ça le dépeint pas sous un jour le plus positif. Après, ça reste quand même factuel, ça partage, les éléments qui sont dans la vie publique qu'il a partagé sur des plateformes sociales. S'il n'est pas content, il a qu'à pas le partager. Et donc, du coup, il s'est mis en tête de mener une guerre numérique à Wikipédia, qu'il propose même de renommer Wikipédia. On sent le niveau du jeu de mots, toujours caca prout-prout, hein, ici pour Elon Musk. J'ai envie de dire, t'as bien renommé ton réseau social X, c'est hyper subtil et hyper de bon goût quand on sait la connotation de la lettre X. Alors j'ai envie de dire, Wikipédia, il n'y avait que toi pour penser à ce type de nom. Voilà, mais bon. Et du coup, en un week-end, Elon Musk a publié carrément une dizaine d'attaques contre la plateforme communautaire qu'est Wikipédia. Alors, je suis d'accord avec vous, notamment FR Jazz, il est fatigant. Mais je pense que c'est quand même important d'en parler, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime Wikipédia. Voilà, on peut critiquer Internet et pointer du doigt avec des dérives, etc. Je trouve que Wikipédia, c'est un des rares éléments qui reste un espèce de petit... Comment dire, pas petit en plus, parce que c'est international, c'est mondial, mais un espèce de havre de connaissances communautaires, de collaboration communautaire sur Internet, comme on ne sait plus trop en faire, finalement, j'ai l'impression, ou en tout cas, X nous montre bien que c'est difficile à faire et qu'on peut échouer. et voilà, mais en tout cas, Elon Musk, ce n'est pas nouveau, il aime bien cibler un organisme ou une personne pendant plusieurs jours d'affilée avant de se lasser et de passer à autre chose. Et ici, je pense qu'il n'a pas forcément digéré, notamment peut-être l'image de Wikipédia et de son fondateur Jimmy Wales, qui ont, eux, à contrario d'Elon Musk et de X, une bonne image en matière de désinformation, alors que X, cette plateforme, est pointé du doigt par l'Union européenne. Twitter, notamment, accusé de laisser passer des milliers de fake news sur la guerre entre Israël et le Hamas, alors que Wikipédia et ses initiatives sont présentées justement comme des bons élèves. Et donc, du coup, c'est là où Elon Musk se dit « bah forcément, il y a une manipulation politique, il y a du complot ici ». Et notamment, retweeté plusieurs messages qui laissent entendre que Wikipédia financerait des organismes de censure au service des États. Voilà, donc la petite théorie complotiste. Autre raison potentielle de cette vague d'hostilité d'Elon Musk à l'encontre de Wikipédia, c'est peut-être que Jimmy Wales a critiqué publiquement les changements de Twitter qui empêchent justement de distinguer un vrai journaliste d'infos à cause de la certification payante. Donc, on sait qu'Elon Musk n'aime pas trop la critique, donc potentiellement, c'est lié à ça. Autre élément aussi, c'est que Wikipédia se repose fortement sur des sources de médias, de recherches, etc. Et Elon Musk, lui, dit « Non, mais de toute façon, tous les tweets se vaut. Ce que dit une personne lambda versus un journaliste a la même valeur. Et de toute façon... » X, c'est juste une plateforme d'information open source, etc. Enfin, moi, j'ai envie de m'étouffer quand je lis ça, mais j'ai envie de dire non, je ne suis pas aussi légitime qu'un journaliste qui a travaillé sur le conflit Israël-Hamas depuis des dizaines d'années. Je ne suis pas aussi légitime pour m'exprimer sur le sujet. Non. Voilà, je trouve ça incroyable et d'une naïveté, pour pas dire autre chose, sans fond. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? La complosphère s'est emparée du sujet en qualifiant désormais Jimmy Wales de roi de la désinformation dans le monde. Et donc les comptes qui ont éclos pendant le Covid-19... sont les mêmes que ceux qui s'excitent contre le créateur de Wikipédia depuis qu'Elon Musk les a appelés à l'attaquer. Et Jimmy Wales tente de dialoguer avec Elon Musk hein, en citant des exemples, notamment de faux journalistes qui partagent des mensonges sur Israël, notamment. Mais Elon Musk lui répond carrément pas. Évidemment, même pas de dialogue ici. Parce que du coup, quand on utilise des faits, eh ben là, il n'y a plus de dialogue possible. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est ce que je vous disais, hein, la vision d'Elon Musk sur Twitter, c'est X est le seul média open source en 2023. Il préfère miser sur les tweets des internautes et sur les notes de communauté, même si plusieurs études prouvent que la plupart des tweets mensongers n'ont pas le temps d'être fact-checkés. Et c'est très intéressant parce qu'il y a même carrément un tweet, franchement, il faut que je vous le montre, j'ai franchement hurlé de rire sur la combien ça montre le comment Elon Musk peut se tirer une balle dans le pied lui-même. Je vais essayer de vous retrouver le tweet d'Elon Musk sur le sujet, parce qu'en fait, il va dire « Non, mais moi, je fais plus confiance aux notes de la communauté. » Et donc, les notes de la communauté Twitter, c'est carrément retourné contre lui. C'est ça que je trouve génial. Attendez, j'essaie de vous retrouver ça. Ah, j'espère qu'il n'a pas supprimé son tweet. Ah, il faut que je retrouve parce que c'était sur le premier tweet qu'il a fait, qu'il avait fait sur Wikipédia. Voilà. Je l'ai vu sur mon iPhone, j'espère. Voilà, c'est génial. Je trouve ça génial. Il faut absolument que je vous montre ça. Alors, Elon Musk, qui là donc fait un tweet qui sème le doute sur le financement de Wikipédia, avec notamment l'organisation à but non lucratif de Wikimedia Foundation, la fondation. Et il dit « Have you ever wondered why the Wikimedia Foundation wants so much money ?» Donc en gros, il demande « Est-ce que vous avez déjà posé la question sur pourquoi la fondation Wikimedia demande autant d'argent ou veut autant d'argent ?» Et il dit « C'est certainement pas nécessaire pour faire fonctionner Wikipédia. » Vous pouvez littéralement loger une copie de tout le texte disponible sur votre téléphone. Donc, pourquoi l'argent est utilisé ? Point d'interrogation. Et donc, les esprits investigateurs veulent savoir. Enfin, je vous fais un peu une traduction littérale, excusez-moi. Et donc, juste en dessous, vous avez une note de la communauté Twitter qui met des liens, qui détaille le financement de Wikimedia. Je trouve ça génial. Donc en fait, la fonctionnalité même de X que Elon Musk dit c'est vachement bien et c'est beaucoup mieux que Wikimedia, que Wikipédia, et d'ailleurs, qui ressemble très fortement d'ailleurs aux notes de communauté de Wikipédia, hein, et ben en fait, sert à montrer qu'il raconte des salades. Voilà, je trouve ça génial. Donc, je tenais quand même à vous le partager parce que franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment délicieux, quoi. Bref. Et donc, du coup, je vous encourage aussi à lire un article de Vice sur le sujet qui, justement, creuse un petit peu là-dessus et qui mentionne, en effet, a priori, je suis assez d'accord avec eux, que Wikipédia est une des dernières bonnes places ou des bons endroits sur Internet. C'est un grand trésor de connaissances avec des images libres de droit, des discussions super importantes, avec des personnes à travers la planète qui peuvent avoir une rapide compréhension sur un peu presque n'importe quel sujet dans beaucoup, beaucoup de langues différentes. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche encore en 2023 sans avoir des douzaines de publicités qui polluent l'écran. Et ça ressemble un peu encore à un miracle puisque c'est uniquement supporté par des dons. Voilà. Et les utilisateurs de Wikipédia ne sont pas juste des lecteurs. Wikipédia, c'est plus que juste un site internet sur lequel vous allez vous renseigner. C'est chaque jour des millions de personnes qui se rassemblent sur Wikipédia et qui vont lutter pour afficher des faits vraiment sur la documentation et sur l'information qui est mise à disposition sur la plateforme Wikipédia. Et donc Wikipédia ne fait pas que juste préserver plus de 22 gigas de textes et d'images, mais ils sont aussi en train de préserver des années de modifications et de discussions sur les modifications de Wikipédia et de pourquoi ces mots ont été écrits ou choisis par rapport à d'autres. Et donc tout ça, c'est tracé par écrit et chaque page sur le site est un enjeu de discussion, d'alignement, de ramener les faits et qui est constamment amélioré. Et ça, ce travail de constamment améliorer, enrichir, et éditer, et à la fois toutes les initiatives pour une meilleure représentativité aussi des personnalités de différentes origines. Évidemment, on a vu que Wikipédia est au courant qu'il y a évidemment beaucoup plus de personnalités masculines qui sont représentées sur le site et travaillent justement avec des initiatives pour essayer de rétablir et de corriger cet équilibre. Et donc, ils vont permettre aussi de voir émerger ou de pouvoir s'informer sur des personnalités féminines et pas que. Et donc ça, ça a vachement de... Enfin voilà, ils s'engagent beaucoup sur ce type d'initiative, quoi. Et un autre élément qui est hyper intéressant, c'est que c'est quand même un site internet qui est gratuit, qui est sans publicité, où des millions de personnes, que des millions de personnes utilisent chaque jour, à la fois pour consulter, mais également pour modifier et enrichir. Donc ça semble assez monumental comme, tâche. Et de l'autre côté, Wikipédia est... vraiment de manière assez impressionnante, stable. J'ai rarement entendu parler de problèmes techniques sur le site Wikipédia. Est-ce qu'on peut en dire la même chose du côté de Twitter ? Voilà. À un moment donné, quand tu critiques un service, j'aimerais bien que les gens qui critiquent un service se regardent un peu dans le miroir et se disent, est-ce que nous, on peut faire mieux ? Ou est-ce que nous, on fait mieux aujourd'hui ? J'ai pas l'impression. Alors après, pour prendre la défense de X et de Twitter, la correction en temps réel ou la notion de temps réel sur Twitter rend la complexité de la tâche pour X bien plus compliquée. Mais il y a quand même des batailles en temps réel qui se déroulent sur Wikipédia justement pour corriger les edits, etc. Mais voilà, bon, l'enjeu est quand même, enfin, la complexité à un niveau supérieur sur Twitter, clairement. Et donc, sur la question de où l'argent va, bah en fait, chaque année, Wikipédia publie justement des parties de son... chaque année, en fait, la Wikimedia Foundation, qui est donc une organisation non... à but non lucratif, désolé, j'ai toujours du mal avec la traduction ici, publie ces registres financiers qui sont justement audités par des acteurs tiers indépendants. Et chaque année, justement, ils vont publier une partie de leur audit financier carrément au public. À un moment donné, voilà, il y a quand même une sacrée transparence ici. Et de toute façon, il y a une vérification chaque année hein, par des acteurs tiers. Et donc, par rapport si on regarde à son rapport financier de 2022, ils ont reçu a priori 160 millions de dollars en donations. Ils ont dépensé 88 millions de dollars pour les salaires de leurs salariés hein, et notamment des salariés des... Voilà, 2,7 millions de dollars sur l'hébergement Internet et 1,2 million de dollars en voyage, en dédommagement, etc. pour les déplacements. Et donc, du coup, c'est très facile d'avoir accès à ce type de rapport si tu fais un tant soit peu de recherche. Si, en fait, au lieu de partager... tout ce qui te vient à l'esprit, la moindre bêtise, tu tournes 7 fois ta langue dans la bouche avant de partager des bêtises et tu recherches un petit peu sur Internet et tu trouves des sources qui te partagent les audits financiers. Donc, ça montre un petit peu, en gros, le positionnement de X, c'est-à-dire déblatère des bêtises, surtout ne te renseigne pas au préalable. Je suis méchante envers Elon Musk, mais bon, ça montre bien l'écueil ici qu'on a sur la plateforme ici. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça vraiment délicieux qu'un community post de Twitter débunk justement la bêtise d'Elon Musk. Voilà, donc merci aux utilisateurs Twitter ici. X, pardon. Voilà, on a passé beaucoup, beaucoup de temps sur ce sujet, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom avant de passer à l'article suivant. D'ailleurs, Google s'appuie sur Wikipédia, ouais. On sent l'envie de dire des noms d'oiseaux, un peu. Mais on reste poli parce que de toute façon, ça sert pas le sujet non plus d'insulter les gens. Voilà. C'est juste dommage, quoi. À part du vandalisme de temps en temps, ça marche super bien Wikipédia, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi vouloir rétablir un équilibre sur les personnalités si de base il y en a plus de masculines normales d'en retrouver sur Wiki? Ah, Matt Eleven est en train d'ouvrir un tout autre sujet d'une boîte de Pandore et je suis pas tout à fait sûre que tu as envie de plonger là-dedans. Mais pour la faire courte, quand une société a des biais qui va limiter la représentativité des minorités, type femmes, personnalités de couleur ou d'origine diverses et variées, à la faveur d'hommes blancs cis, eh ben, évidemment, du coup, il y a discrimination. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose de juste, c'est un biais inhérent de la société. Et donc, en fait, c'est pas pour le meilleur, ça fait pas une société meilleure d'avoir de la discrimination ou un manque de représentativité. Donc, c'est pour ça que Wikipédia essaye de corriger les biais historique de cette société. On se rend compte que c'est pas qu'on n'avait jamais d'artistes féminines, c'est juste que continuellement, c'était les hommes qui prenaient crédit ou on empêchait les femmes d'être reconnues pour leur œuvre, on les empêchait de travailler et on les cantonnait notamment à des tâches domestiques. Voilà, de la même pour les scientifiques. Voilà, et donc c'est assez intéressant. Juste pour, si tu as envie de voir un petit peu comment la discrimination peut s'opérer, regarde les deux premiers épisodes, ou les trois premiers épisodes de Lessons in Chemistry, qui est une nouvelle série disponible sur Apple TV que j'ai commencée. Alors, je ne peux pas dire encore si elle est bien ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré les trois premiers épisodes. Qui m'ont tenu en haleine, qui ont réussi à me faire tirer une petite larme, alors qu'on en est juste au troisième épisode. Et c'est intéressant de voir comment une discrimination s'opère dans le milieu scientifique et combien les hommes, qui évidemment n'ont pas cette expérience de discrimination, puisqu'elle ne s'adresse pas à eux, sont complètement ignorants et aveugles sur ce genre de pratique. Voilà. Donc vraiment, c'est attention. C'est pas parce que on ne fait pas l'expérience soi-même de discrimination qu'elle n'existe pas. Et donc, du coup, il faut un petit peu se renseigner et essayer de comprendre finalement pourquoi il y a toutes ces initiatives qui essayent d'encourager une meilleure représentation. Voilà. Mais c'est pas le sujet du jour, mais c'est un sujet passionnant. Mimique Cacole, exactement, partage un autre exemple. Au XVIIIe siècle, les fameux peintres devaient avoir un homme pour porter un nom. Voilà, portrait d'une jeune fille en feu, tout à fait. Le film est formidable d'ailleurs. Je l'ai vu ce week-end. Tu vois, j'ai fait du rattrapage ce week-end. Ce film est formidable. Et la peintre, parce que dans le film, c'est une peintre, mentionne justement qu'elle n'a pas l'autorisation de peindre des hommes nus. Or, si on veut une grande peinture, à l'époque, c'était souvent en peignant des hommes nus. Voilà, que ce soit sur des thématiques de religion, voilà, etc., etc. Et donc, du coup, d'interdire aux femmes de pouvoir peindre ce type de sujet les prive d'accéder à une certaine reconnaissance dans la communauté de peinture. C'est la même chose dans la littérature. Beaucoup, beaucoup d'autrices ont dû publier sous des pseudonymes masculins pour pouvoir être publié. Tu l'as trouvé pas très bien filmé, Mimi Cacole? Ben, écoute, moi, j'ai trouvé extrêmement bien filmé, au contraire. J'ai adoré le parti pris artistique. J'ai trouvé que les images étaient très belles, très sensuelles. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc, toi, tu n'as pas trop aimé, justement, quand c'était filmé. C'est vrai qu'il y a une manière de filmer particulière, tout à fait. Il y a aussi le film Big Eyes, tout à fait, sur la peintre Margaret Keane, tout à fait, je l'ai vu aussi. Merci Oleg pour le partage. Ça montre aussi combien c'est dur d'avoir accès finalement à une reconnaissance professionnelle de ses pairs quand on, voilà, on ne fait pas partie du type de personne qu'on accepte d'être visible. Voilà, je vous propose, parce que sinon je sens que je vais passer toute l'émission sur ce sujet, mais merci en tout cas d'avoir quand même posé la question. C'est important du coup d'en parler, mais je t'encourage vraiment voilà, à regarder un petit peu autour de toi pour voir l'expérience des autres et comprendre un peu mieux pourquoi il y a ce type d'initiative et de qu'est-ce que les autres vivent finalement. C'est vraiment intéressant. Du coup, on va passer à l'article suivant, 1, 2, 3, et on va parler un petit peu de YouTube. Alors, c'est une petite brève, hein, juste pour dire quand même, parce que c'est sympa quand il y a des nouvelles fonctionnalités, YouTube va déployer des nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles pour tous. Auparavant, elles étaient uniquement en accès pour ceux qui avaient un abonnement premium. En effet, à partir de 2020, YouTube avait décidé un petit peu de changer la manière dont il voulait tester les fonctionnalités et au lieu de choisir des utilisateurs un petit peu, j'ai pas envie de dire au hasard, l'article dit au hasard, mais généralement quand on teste des fonctionnalités, c'est jamais au hasard. On va définir une cohorte d'utilisateurs, un groupe d'utilisateurs avec des particularités, soit de démographique, soit d'usage. Enfin voilà, il y a plein de critères sur lesquels on peut définir quels sont les utilisateurs les plus pertinents pour ce qu'on essaye de tester. Et on va tester en premier avec eux. Et en fait, ils avaient un petit peu changé voilà, leur manière de faire et ils avaient donné en accès anticipé finalement pour ces fonctionnalités en développement et en test aux utilisateurs premium, aux abonnés premium de YouTube. Et donc du coup, pas mal des fonctionnalités qui étaient jusqu'ici limitées aux utilisateurs premium arrivent désormais pour tous les utilisateurs. Donc du coup, en tant qu'utilisatrice gratuite de YouTube, je suis contente. Et donc du coup, c'est quoi ces fonctionnalités aujourd'hui qui sont en accès gratuit ? Eh bien du coup, ça va être la possibilité d'accélérer et de multiplier par deux la vitesse de lecture sur le player. Et donc ça, il suffit juste de maintenir votre doigt appuyé sur le player, enfin sur le... partout sur le player pour pouvoir multiplier par deux. Donc ça, c'est assez rapide, c'est un raccourci super efficace. Ensuite, il y a YouTube qui, par défaut, a mis en place un système de stabilisation de niveau sonore tout au long de la vidéo. Donc ça, merci, c'est quand même super agréable parce qu'on déteste tous regarder une vidéo et tout d'un coup avoir un saut de son qui nous casse les oreilles. Petit exemple, les pubs sur Canal+. Voilà. Canal+, service que tu payes et qui en plus te fout des pubs en début, en milieu de programme, etc. sur certains programmes sur leur plateforme. Et avec donc une différence de son, je vous dis, je pense que j'ai réveillé mes voisins à un moment donné tellement la différence de son était augmentée pour la pub, quoi. Donc du coup, c'était même pas que la pub était désagréable ou toujours la même sur les 4 coupures publicitaires que j'ai eues durant mon programme, ce qui était déjà assez énervant en tant que tel, mais juste ils m'ont crevé les tympans avec leur niveau sonore. Voilà. Donc Canal+. Vous avez de quoi vous améliorer. Donc, merci YouTube pour cette initiative. Et ensuite, on a également une fonctionnalité que je trouve assez intéressante. La possibilité de rechercher une chanson juste en fredonnant. C'est dingue. On a tous eu en tête une chanson qui nous restait coincée dans la tête, dont on avait l'air, mais impossible de retrouver le nom ou l'artiste. Et donc là, en fait, typiquement, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour la reconnaissance de voix et d'air pour essayer de répondre à votre question de « c'est quoi cette chanson qui traîne dans ma tête de manière infinie ?» C'est un Shazam fredonnant. Je ne sais pas si Shazam fait ça d'ailleurs, de juste avec la possibilité de fredonner, de reconnaître une chanson. Je sais que quand il y a des chansons qui passent, ça marche très bien, mais est-ce que fredonner, ça marche avec eux ? Donc voilà. Normalement, c'est régulé par la loi, la différence de son pub contenu à la télé. Ça l'est pas sur Canal, écoute, ça l'est pas sur leur application iPad ou Apple TV. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Clairement pas. Et comme je ne regarde pas la télé, Enfin, je regarde pas les chaînes traditionnelles. C'est comme ça que je me suis retrouvée agressée de manière sonore. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je regarde un petit peu s'il y avait autre chose. Ah oui, puis alors, plein de petites choses sympas en plus. C'est notamment l'expérience de navigation dans le contenu qui est plus agréable parce que vous avez des previews, des miniatures de vidéos qui sont plus grandes. Donc, vous voyez plus facilement le programme ou un aperçu du programme que vous allez regarder. Vous allez également pouvoir verrouiller votre écran pour éviter que quand vous jouez une vidéo, ben, sans faire exprès, vous appuyez sur le player et du coup ça vous fait naviguer dans la vidéo ou ça met sur pause, etc. Ce qui est quand même assez agaçant. Donc ça, c'est pas mal pour éviter les tapes accidentelles. Et également YouTube qui a combiné désormais la bibliothèque, la tab, bibliothèque avec la tab compte. Voilà, et du coup, ça devient une tab You, tout simplement. Donc, vous. Du coup, vous pouvez retrouver tout le contenu là. Assez logique aussi, je trouve. Donc, voilà, a priori, plein de petits changements bienvenus. Donc, c'est plutôt cool. Dans un premier temps, les fonctionnalités vont être disponibles uniquement pour les utilisateurs Android. Donc, voilà, profitez-en. Et pour les utilisateurs iOS, vous allez devoir patienter encore un petit peu, mais ça devrait arriver quand même. Voilà, donc plein de petites nouveautés ici disponibles pour YouTube qui vont dans le bon sens. Donc ça, c'est assez cool. Ça fait toujours plaisir. On enchaîne cette fois-ci, on passe de YouTube à Twitch. Et en plus, ça tombe bien, on est sur Twitch. Alors malheureusement, ce n'est pas forcément un sujet très positif, mais je pense que c'est un sujet quand même important. Et je voulais en parler ce matin. C'est notamment une recherche qui a été menée par la Teen Trends Consortium, j'ai du mal ce matin, à la Cohen's Children Medical Center. Donc en gros, c'est le consortium Teen Trends, les tendances des adolescents, on va dire ça comme ça, qui a été mené par le Centre médical des enfants, le centre médical Cohen, putain, j'arrive pas à fermer, excusez-moi, j'ai juré. J'arrive pas à faire la traduction en temps réel. Mais voilà, le centre médical pour les enfants, voilà, qui est situé à Northwell Health, qui fait partie de Northwell Health, qui est oh là là, les articles en anglais à 9h du matin, c'est compliqué. Qui fait partie en fait d'un fournisseur de soins voilà, à New York. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc en gros, c'est un organisme qui traite de la santé pour les adolescents, voilà, aux États-Unis, qui a fait cette recherche sur Twitch. Et cette recherche montre que cette plateforme très populaire chez les plus jeunes, et notamment dans le domaine du gaming, malheureusement peut être un paradis pour les mauvais acteurs qui voudraient ou qui auraient l'intention de manipuler des streamers mineurs ou adolescents. Et ça, c'est une recherche qui a été donc publiée récemment. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, pour mener cette recherche à bien, eh ben, ils ont suivi 100 mineurs qui streamaient et qui ont cumulé 1,7 million de followers au total, et qui malheureusement, ils se sont aperçus qu'en les suivant, eh ben, ils partageaient régulièrement des informations qui permettaient de les identifier en tant qu'individus. Et donc ça, c'est assez risqué, malheureusement. Et donc, les personnes qui ont fait ce tracking, cette étude, voilà, n'ont pas pu vérifier de manière indépendante l'âge des streamers. Donc, ils se sont reposés sur une évaluation visuelle de la personne, voilà comment elle était, elle apparaît à la caméra, et également lorsqu'ils partageaient d'eux-mêmes leur âge, quand c'était partagé publiquement sur un stream. Et malheureusement, presque la moitié de ces streamers mineurs ont partagé carrément leur nom de famille et également ont partagé fréquemment leur localisation. Ce qui est quand même assez, enfin vraiment, vraiment problématique. On sait que voilà, ce sont des mineurs, qu'ils partagent leur nom, donc ils donnent accès à leur identification et en plus ils partagent leur localisation géographique. C'est vraiment, vraiment risqué. Et donc du coup, c'est vrai que les mineurs ont vraiment un intérêt à être proches de leur communauté sur Twitch, parce que Twitch va permettre tout simplement de donner de l'argent aux streamers et donc du coup de développer sa communauté, de se livrer envers sa communauté. Et ben du coup ça permet de créer une connexion plus forte avec sa communauté, et donc du coup c'est là où on est tenté de partager de plus en plus d'éléments personnels ou de l'ordre du privé. Voilà. Donc, par exemple, je pense dans la chatroom, vous êtes capable d'évaluer à peu près mon âge. Attention, c'est mon anniversaire la semaine prochaine, donc attention à pas me vieillir, merci. Et je ne vous demande pas de partager vos spéculations sur mon âge non plus. Mais voilà, vous avez quand même une idée. Je pense qu'aussi, j'ai dû le partager parce que c'est pas quelque chose pour moi qui est très important. Pour un mineur, c'est quand même important. 23 au moins, centre de Cannes. Tu prends pas de risque comme ça. Tu peux au moins rajouter 10 ans. voilà, donc, mais par exemple, on ne vous a pas partagé la localisation précise où on vit. Vous savez qu'on vit à Paris, mais vous ne savez pas exactement où. Et ça, c'est volontaire. On préfère rester privé ici, et ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite partager. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est vrai que le fait que Twitch permet à des utilisateurs de pouvoir être rémunérés alors qu'ils sont mineurs sur la plateforme, ben, c'est vrai que ça peut créer des problèmes. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui se passe, c'est le programme officiel de monétisation sur Twitch demande l'autorisation parentale pour les mineurs, mais n'a pas d'âge minimum, à part la limite de la plateforme d'avoir au minimum 13 ans. 13 ans ou plus. Donc, à partir de 13 ans, en fait, on peut monétiser sur la plateforme avec l'accord, si on a l'accord des parents. Pour les streamers qui ne font pas partie du programme officiel de monétisation de Twitch, ils peuvent quand même faire des dons à travers des plateformes comme PayPal ou Venmo. Alors, PayPal, eux, ils vont restreindre les comptes pour des personnes majeures, donc à partir de 18 ans ou plus vieux. Venmo, qui est quand même une filiale de PayPal, par contre, permet aux parents d'ouvrir un compte pour leurs enfants à partir de 13 ans. Donc 13 ans, 17 ans. Donc voilà, on a ça. Pourquoi c'est problématique aussi, cette pratique de Twitch avec les mineurs qui streament sur la plateforme? C'est que dans plusieurs cas, il y a eu quand même quelques cas lors de la recherche où des mineurs ont changé de vêtements devant l'écran, ou ont essayé plusieurs tenues en face de la caméra, liées à des commentaires, liées à des donations. Donc là, on est sur des comportements très, très limites, pour pas dire dangereux ici, qui est d'encourager les gens à faire des actions sous couvert de rémunération monétaire sur la plateforme, où on va rémunérer un mineur pour faire des actions spécifiques devant l'écran, devant la caméra. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Et c'est là où, justement, l'auteur de l'étude se disent certaines personnes, donc là, de la communauté ou dans le chat, peuvent vous faire sentir obligés de faire certaines actions, et ce n'est pas normal. Et c'est vrai que quand on est adulte, on se protège de plus en plus par rapport à ça, de par l'éducation, l'expérience, la maturité aussi qu'on acquiert avec le temps et l'expérience. Et puis, on a eu un accompagnement au fur et à mesure des années. Mais quand on est mineur, on est moins protégé par rapport à ça. Et que quand on est incité ou les gens payent pour nous faire faire des actions en live, eh ben, du coup, des fois, on n'a pas le recul nécessaire pour se questionner de est-ce que c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis à l'aise, sur lequel je suis prête à faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment problématique et très dangereux. Et d'ailleurs, Twitch s'est exprimé sur le sujet. Hein. Il a dit justement, enfin, ils ont dit n'importe quel comportement prédateur qui cible des enfants est une horreur et inacceptable. Voilà, pour vous faire une traduction. Donc ça, c'est une déclaration qu'ils ont partagée justement à Mashable, qui est donc l'article qui parle de cette recherche. Donc voilà, donc là, il y a quand même un positionnement fort de Twitch qui n'est pas là pour soutenir ce genre de comportement, et heureusement qu'ils l'ont fait de manière assez forte. Et donc, voilà, ils ont notamment mentionné plusieurs techniques qu'ils ont mis en place, notamment une technologie qui va automatiquement utiliser des indices de comportement pour identifier à la fois des prédateurs potentiels et également des streamers mineurs afin de pouvoir prendre les actions pertinentes dans un cas ou dans l'autre. Dans le cas de mineurs, et ben potentiellement restreint dans leur capacité à streamer, puisqu'ils sont en dessous de l'âge légal requis par la plateforme. Et pour les prédateurs, ben là aussi, potentiellement des comptes enlevés, etc. etc. Donc voilà, donc ils travaillent sur ce type d'outils. Il y a également une espèce de guide parental et d'éducation qui essaye justement d'accompagner sur les mineurs sur comment éviter les écueils en ligne, notamment ne pas faire des défis ou ne pas relever des challenges, qui sont aussi des comportements très prisés chez les plus jeunes et qui peuvent être dangereux. Et également pour les mineurs qui ont reçu des demandes à caractère sexuel ou suggestif, etc., suggestif ou explicite, de partager justement et de signaler ce genre de requêtes immédiatement pour justement être accompagné. Malheureusement, donc évidemment, il y a des mesures en place. Ça n'empêche pas, malheureusement, c'est pas très préventif. C'est-à-dire, malheureusement, ça va pas empêcher que ça se produise assez. Donc voilà. Donc il faut vraiment prendre des mesures et protéger les mineurs qui choisissent de streamer en les accompagnant, en s'assurant qu'ils sont pas confrontés à ce genre d'événement ou quand ils sont confrontés, malheureusement. Il va falloir les aider. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, Bloomberg avait investigué sur le sujet et avait vu que les prédateurs semblaient utiliser Twitch pour cibler des streamers plus jeunes. Voilà. L'autre chose problématique, c'est que les chercheurs n'ont même pas eu besoin de créer de compte sur la plateforme pour pouvoir suivre des mineurs qui streamaient. Et ça montre combien il est facile pour des mauvais acteurs de chercher, d'identifier des mineurs. Voilà, donc le plus long qui a été donné pour un utilisateur de penser trouver un mineur en train de streamer était 5 minutes à peu près, ce qui est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Une autre chose aussi, voilà, de mentionnée par le docteur Ruth Milanek, qui est un pédiatre dans le développement, qui travaille également à cet organisme de santé. Et qui est la principale enquêtrice, on va dire, sur cette recherche, a mentionné aussi que si un adulte essayait d'attirer un enfant dans un endroit public, que ce soit un centre commercial, etc., les parents prendraient toutes les étapes nécessaires pour protéger leurs enfants de ce contact. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose lors du social media. C'est que les réseaux sociaux peuvent donner une fausse sensation de distance, finalement. Le fait que ça se passe en ligne peuvent donner une fausse sensation de distance et de protection entre l'enfant et potentiellement les comportements prédateurs. Mais finalement, le danger est quand même réel ici. Important d'en parler, sujet difficile, en espérant que on va pouvoir trouver des solutions pour protéger justement les plus jeunes et les mineurs dans ce type de situation. Voilà, et peut-être essayer surtout de prévenir ce genre de situation. Voilà, là-dessus, je fais une petite pause quand même pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues ce matin et que j'ai pas pris le temps de remercier. Un grand, grand merci du coup à ACIP Digital, à Olivier Olivier Rennes Avril, un grand merci à Jeune Raph aussi, à Olivier SG, à Olive 40, à KZ V2, à Tiju de Pomme et Ocotax pour vos soutiens et vos abonnements. Un grand merci à vous, c'est grâce à vos soutiens qu'on peut rémunérer les personnes qui travaillent à produire du contenu de qualité sur la chaîne et qui travaillent à cette émission. Donc un grand, grand merci à vous pour votre soutien. Voilà. Et on termine les news ce matin avec un dernier sujet qui concerne Apple TV+, le service de programmes originaux d'Apple TV qui est disponible sous forme d'application que vous pouvez avoir sur l'Apple TV, sur l'iPad, sur l'iPhone, etc. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Eh ben, c'est un article de Ars Technica qui revient sur ce sujet et qui est assez intéressant. Et qui informe notamment d'une information qui a été partagée originellement dans le New York Times et Variety, qui informe que l'émission hebdomadaire de Jon Stewart, qui s'appelle The Problem with Jon Stewart, qui était donc produit par Apple, a été annulée pour sa troisième saison seulement quelques semaines avant l'enregistrement de cette troisième saison. Et donc du coup, l'article du New York Times mentionne plusieurs personnes avec des connaissances de la situation auraient rapporté que les personnes qui travaillaient justement sur ce show ont été informées juste un jeudi en fin de journée que finalement la saison 3 n'irait pas plus loin et qu'elle ne serait pas enregistrée. Alors pourquoi ce changement de position, puisqu'a priori la saison 3 était sur le point d'être enregistré, donc on avait déjà les scénaristes ou en tout cas les journalistes qui travaillaient sur les sujets, etc. de l'émission, travaillaient dessus déjà depuis quelque temps. Et ben en fait, a priori, Jon Stewart et les exécutifs chez Apple ont eu des désaccords sur certains sujets et invités prévus dans l'émission. Donc ça, c'est les sources qui ont partagé cette information. Alors, plus spécifiquement, ils ont rapporté que Jon Stewart avait partagé aux personnes, aux employés qui travaillaient pour l'émission, que les exécutifs, les dirigeants à Apple se sont fâchés sur certaines programmations qui étaient liées notamment au sujet de la Chine ou notamment au sujet de l'intelligence artificielle et qui ont noté également qu'avec la campagne politique prévue en 2024, qu'il y aurait eu potentiellement d'autres sujets de désaccord liés justement au contexte politique très fort qui allait se dérouler en 2024. Et donc du coup, là, on peut spéculer un petit peu pour mettre en lumière pourquoi il y aurait eu ce genre de désaccord. Eh bien, tout simplement, il ne faut pas oublier quand même que Apple fait la plupart de son business, que ce soit en termes de production et de vente, donc production de ses objets, de ses produits type iPhone, iPad, ordinateur et compagnie en Chine, et également de ses ventes en Chine. La Chine est un marché que Apple ne peut pas ignorer et un des marchés principaux d'Apple aujourd'hui. Et donc du coup, on peut très facilement spéculer ici que les exécutifs chez Apple se retrouvent un petit peu le cul entre deux chaises, encore une fois, ici, et inquiets sur le fait que Jon Stewart allait potentiellement froisser ou commenter de manière négative les pratiques ou la politique dans certains marchés importants pour Apple et donc potentiellement froisser soit des pays, soit des partenaires très importants dans un pays donné. Et puis en ce qui concerne l'intelligence artificielle, en effet, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant un an à peu près. On arrive à la fin 2023, donc c'est en effet, même plus d'un an, puisque ça a commencé fin 2022, j'ai envie de dire quand on a commencé vraiment à avoir une grosse émulation autour de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, c'est quand même aussi un secteur dans lequel Apple augmente un petit peu son investissement, sa concentration, etc., et qui développe notamment de plus en plus de fonctionnalités logicielles sur son iPhone grâce à l'intelligence artificielle, notamment dans le traitement d'images, etc. Et ils vont utiliser notamment le machine learning pour améliorer les suggestions de recherche, la photo, la détection de la main, etc., des gestes. Et donc, du coup, on avait également des rumeurs comme quoi Apple planifiait d'utiliser quelque chose de similaire à ChatGPT. Donc, on parle ici de Large Language Model. Voilà, et ces large language models ont été quand même pas mal pointés du doigt dernièrement, voilà, et ont voilà, été sujets à controverse. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être le sujet de l'intelligence artificielle est un peu touchy aussi du côté d'Apple. Donc c'est très intéressant parce que finalement, l'annulation de ce programme de John Stewart montre un petit peu les challenges auxquels font face des plateformes type Apple, Amazon ou Google quand ils essayent de produire du contenu alors qu'ils commercialisent dans ces mêmes marchés potentiellement qui vont être le sujet de ces contenus, qui vont potentiellement critiquer, qui vont commercialiser et faire la plupart de leur business finalement dans ces pays-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Ça fait partie également d'un schéma ou d'un pattern qu'on voit de plus en plus, d'un motif récurrent qu'on voit de plus en plus sur ces plateformes de streaming qui galèrent, voilà, quand il s'agit de traiter un espèce de format de contenu comme un talk show. Pourquoi ? Il y a eu plusieurs tentatives, hein, d'ailleurs. Il y a eu Netflix avec Norm Macdonald Has a Show. Il y a eu plusieurs tentatives, mais qui n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de succès. De part parce que le business model du streaming est plus sur créer de la valeur long terme sur des programmes qui vont être pertinents dans le temps. Or, finalement, les talk shows, le principe des talk shows, c'est qu'ils vont être grandement ancrés dans l'actualité. Et donc, du coup, un épisode de talk show va faire beaucoup parler de lui au moment de sa diffusion et il va beaucoup moins faire parler de lui sur du back catalogue. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose sur lequel qu'on va consommer 2 ans, 3 ans, 4 ans après, à part si finalement un sujet revient dans l'actualité pour dire, ah ben, à l'époque, on en avait déjà parlé, etc. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la mécanique même de ces plateformes de streaming vise à créer du back catalogue et à avoir des programmes qui vont garder leur valeur dans le temps. Or, le talk show est plus ancré dans l'actualité, dans l'immédiateté, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors oui, potentiellement, Moustique, tu nous mentionnes, le talk show peut se positionner comme un produit d'appel. Et en effet, ça a un peu été le cas, notamment quand ils avaient fait ça avec Letterman sur Netflix. Mais je pense quand même que il y a moins cet enjeu de rendez-vous hebdomadaire. Après, c'est aussi lié à comment ils sortent les épisodes. Par exemple, certaines plateformes ont réussi à recréer ce rendez-vous hebdomadaire, notamment Apple TV, Disney, etc., où chaque semaine, vous avez un nouvel épisode. Voilà, comme je disais dernièrement, Lessons in Chemistry, vous avez un épisode tous les vendredis qui sort. Loki sur Disney+, vous avez également un épisode qui sort une fois par semaine, etc. Donc, ils ont recréé un petit peu ce rendez-vous, ce que Netflix a moins fait, moi, je trouve, de toutes les plateformes. Donc voilà, il y a vraiment, en tout cas, d'une part, une difficulté de ces GAFAM qui veulent aller sur la production de contenu sans vouloir froisser les marchés avec lesquels ils font du business et donc ils vont du coup avoir une ligne éditoriale qui va chercher à ne pas froisser forcément leurs partenaires ou les pays dans lesquels ils font du business. Et de l'autre côté, la difficulté de ces plateformes de streaming où leur ADN, c'est vraiment de créer de la valeur sur le long terme. Or, les talk shows sont plutôt sur l'immédiateté, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'était le dernier article du jour. J'en profite pour lire un peu vos commentaires avant de vous quitter. Il est bien loin le Think Different d'Apple qui se voulait transgressif. Que se passera-t-il ensuite de la défense de toutes les minorités en fonction de la crainte de perte de chiffre d'affaires ou de marché ? Alors, Nicolas, je pense que, en effet, l'image d'Apple et le positionnement d'Apple a évolué dans le temps. C'était très facile pour Apple de se positionner en outsider ou en challenger quand ils étaient plus petits. C'est absolument pas le cas ou plus le cas aujourd'hui. Donc d'ailleurs, ils ne surfent pas forcément sur le Think Different aujourd'hui, d'ailleurs. De plus, le Think Different était appliqué d'une certaine manière, pas forcément sur tous les sujets ou dans tous les pays ou voilà. Donc ouais. C'est vrai qu'on associe l'image d'Apple à ça, mais bon. Mais Apple TV, c'est accessible depuis la Chine. Apple TV Plus, potentiellement. Après, les shows font parler d'eux aussi, quoi. Donc, à voir. C'est à l'encontre même du principe même des plateformes. Ouais. La saison était difficile déjà avec la grève. Oui, non, c'est sûr qu'avec la grève des scénaristes, tous les programmes sont en galère. Après, la grève était importante, hein, donc c'est pas, c'est factuel ici. Hein, il fallait faire cette grève, mais c'est sûr que ça a retardé pas mal de choses. Voilà. Donc voilà, en tout cas pour Jon Stewart et son show. À voir si c'est encore quelque chose qui se généralise avec d'autres late night shows. Apple TV Plus n'est pas dominant, macOS pareil. Ça fait partie des plus grands acteurs. Et là, on parle d'Apple, quand même, pas que d'Apple TV Plus. On parle d'Apple. Apple TV Plus n'est qu'un service, et c'est là justement où ils doivent faire attention. C'est que le poids du business d'Apple TV Plus est bien léger par rapport au poids des ventes d'iPhone, tu vois. Donc du coup, c'est là où ils vont prioriser certains partenaires ou certains pays en fonction. Voilà, écoutez, il est 9h30, c'est la fin de l'émission. J'espère que l'émission vous a plu, qu'elle vous a informé et diverti. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accompagné ce matin. Avant de se quitter, on va quand même voir vers qui on va faire un petit raid. Et du coup, on va faire une pause musique avec Flonflon ce matin. Et du coup, je vous laisse entre de bonnes mains ici. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, pour un nouveau mug, le jour du coup d'Halloween. Spooky, spooky. Et je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Bye bye.